Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain et en Haïti où de nouvelles attaques de gangs ont eu lieu à Port-au-Prince et dans ses environs. De nouveau, des habitants ont été obligés de fuir sans aucune perspective. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. On parlera aussi du carnaval de Rio qui doit commencer demain. Avec un défi, essayer de le rendre un tout petit peu plus vert, de moins polluer et notamment avec les paillettes, on n'y pense pas, mais cela pollue énormément. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, nous irons en Guyane avec vous. La saison du litchi chevelu s'annonce médiocre cette année.
Oui, le Rambutan, de son véritable nom, arrive en ce moment sur les marchés guyanais, mais les conditions climatiques n'ont pas été très favorables cette année.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
D'abord le journal. Bonjour Karine Bellichat.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence avec une décision américaine qui va affecter le monde entier.
Le budget alloué au développement va baisser de 92% dès son retour au pouvoir. Donald Trump a signé un décret exigeant le gel pour 3 mois de l'aide étrangère américaine, une pause des financements censée permettre au gouvernement d'identifier les programmes qui n'étaient pas en accord avec les priorités du président et sa politique revendiquée de l'Amérique d'abord. Nicolas Rocca, le verdict est tombé et il est sévère.
Près de 10 000 contrats et subventions de l'USAID ne seront plus honorés. L'annonce est venue du département d'État ce mercredi et vient conclure un processus mené par la direction de l'agence et Marco Rubio, le secrétaire d'État en personne. En tout, c'est près de 54 milliards de dollars d'aide à l'étranger et au développement qui sont amenés à disparaître, car jugés incompatibles avec le programme de l'administration Trump. Le gouvernement américain s'est aussi réjoui d'une décision de la Cour suprême en sa faveur. Mardi, un juge fédéral avait donné 2 jours à l'administration pour débloquer près de 2 milliards de dollars de paiement d'aide à l'étranger gelé depuis des semaines. Un délai qui expirait à minuit ce mercredi, mais le gouvernement a déposé un recours accepté par la Cour suprême afin de permettre un examen judiciaire complet. Une victoire ou du moins un répit avant une longue série de décisions. Les procédures se multiplient aux États-Unis pour faire face aux plus de 70 décrets signés par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche.
Sur le plan diplomatique, la Pologne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a réagi aux propos du président américain.
Donald Tusk, obligé de reprendre les mots élégants de Donald Trump pour les démentir. Le premier ministre polonais affirme que l'Union européenne n'a pas été créée pour entuber qui que ce soit. Hier, le président américain avait affirmé que l'Europe politique s'est construite pour entuber les États-Unis, oubliant la volonté historique des Européens de garantir la paix sur le continent. Et le locataire de la Maison-Blanche a chiffré la menace d'une augmentation des droits de douane. Donald Trump prévoit une hausse de 25% des taxes pour les produits européens à leur arrivée aux États-Unis. L'Europe promet déjà des mesures de rétorsion.
C'est dans ce contexte pour le moins tendu qu'après Emmanuel Macron, Keir Starmer arrive à Washington.
Le Premier ministre britannique est ambitieux malgré tout. Il veut faciliter le dialogue entre les Américains et les Européens. Un exercice de haute voltige, surtout sur la question ukrainienne, avant le déplacement annoncé comme décisif de Volodymyr Zelensky, attendu dans le bureau ovale demain. Ils discuteront de la possibilité d'un accord de paix. Donald Trump entend surtout tirer profit des ressources ukrainiennes pour, dit-il, se rembourser des frais engagés par les États-Unis dans cette guerre et mettre la main sur les minerais critiques, notamment les fameuses terres rares. Écoutez les explications d'Olivia Lazare, chercheuse à Carnegie Europe à Bruxelles.
Quand on parle de minerais critiques, on parle d'une série et d'une suite de différents minerais. Donc on parle des terres rares, bien évidemment, qui sont principalement situées à l'est du pays. On parle de lithium, où on sait qu'il y a un gisement avec un très haut potentiel qui est à peu près au milieu du pays. Mais on parle aussi, en l'occurrence, de réserves de cuivre, de gallium, de titane, de graphite, de manganèse, de beryllium, etc., etc. Et puis, bien évidemment, d'uranium, ce qui est aussi un gros enjeu, en fait, des guerres énergétiques et des guerres matérielles actuelles. Les terres rares, en l'occurrence, sont principalement situées à l'est du pays, dans les parties qui sont occupées par la Russie. Le dernier rapport qu'on a en date de 2023, fait par la Banque mondiale, estime qu'il y a environ 11 000 milliards de dollars de ressources, en l'occurrence, en Ukraine.
Olivia Lazare, chercheuse à Carnegie Europe à Bruxelles, interrogée par Jessica Brumec de la rédaction en langue espagnole de RFI. Et la France dit aussi vouloir accéder aux minerais ukrainiens. Sébastien Lecornu dit mener des discussions en ce sens avec Kiev depuis des mois, sans chercher à se faire rembourser, précise le ministre des Armées.
Plus de 10 ans après les faits, la France reconnue responsable de la mort de Rémi Fraisse par la Cour européenne des droits de l'homme.
Ce jeune botaniste de 21 ans avait été tué par l'explosion d'une grenade offensive lancée par un gendarme en 2014 à Sivens. La Cour européenne des droits de l'homme estime que la France a violé le droit à la vie. Les explications d'Aram Beng.
La responsabilité de la France est-elle engagée dans la mort de Rémi Fraisse? La réponse est oui. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision ce jeudi, dans laquelle elle condamne clairement la France pour violation du droit à la vie. Selon la CEDH, le niveau de protection requis pour limiter les risques liés au recours à une force potentiellement meurtrière n'a pas été garanti. La Cour pointe également des lacunes dans l'application du cadre juridique en cours à l'époque. Des défaillances de l'encadrement dans la préparation et la conduite des opérations de dispersion des manifestants sont également soulignées par les magistrats. Rémi Fraisse avait été tué par l'explosion d'une grenade offensive lancée par un gendarme dans la nuit du 25 octobre 2014. Plus de 700 grenades de toutes catégories auraient été tirées cette nuit-là, dont une quarantaine considérées comme étant des grenades offensives. Quelques jours après la mort du jeune homme, l'utilisation de ces grenades de type OF-F1 a été suspendue et définitivement interdite par la suite par le gouvernement.
Dans l'océan Indien, l'île de la Réunion se prépare à l'arrivée du cyclone Garance.
Dans moins de 2 heures, l'île française va être placée en alerte rouge. La population devra se confiner. En attendant le cyclone, les Réunionnais s'organisent. Reportage sur place de Lola Fombi.
Et la préparation commence toujours par un tour au supermarché où l'affluence est grande.
Voilà, quand je suis venue là, j'ai fait 2 tours pour me garer. Mais il y a beaucoup de gens dans le supermarché.
Vivienne vient de faire ses stocks en prévision du confinement et d'éventuelles coupures d'électricité.
Le plus essentiel, c'est de l'eau, après du pain, après les boîtes conserves, du fromage. J'ai pris des allumettes aussi, parce qu'après les trucs qu'on met dans les congélateurs, là, s'il y a le courant qui va couper, ben, ça sert à rien, ça va gâter.
Autre consigne respectée, ranger tout ce qui peut l'être à l'extérieur pour éviter que le mobilier ne se transforme en projectile.
Dehors, c'est rangé, après sur mon véranda, pareil, mais là, tout à l'heure, je regarde s'il pleut, je récupère tout, tous les trucs, je mets bien, la table, tout.
À quelques kilomètres de là, dans le port de Saint-Leu, les pêcheurs s'activent pour mettre à l'abri leurs embarcations. François et ses amis préparent Nanoun, la barque qui porte le surnom de sa fille.
Alors on va enlever le moteur sur la canotte, là, pour un peu de sécurité, et après vérifier l'amarrage pour la houle.
Donc là, vous laissez le bateau dans le port?
Oui, on laisse dans le port, oui. Ça doit tenir normalement, on espère bien.
Ce matin, la houle s'élève à 2,50 m. Elle pourrait atteindre jusqu'à 8 mètres au pic du phénomène.
Lola Fourmi à La Réunion et puis les corps de Gene Hackman et de son épouse ont été retrouvés à leur domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Selon la police, aucun indice d'un acte criminel n'a été découvert. L'acteur américain était âgé de 95 ans. Sa femme, la pianiste classique Betty Arakawa, avait 63 ans. Elle, Gene Hackman, a remporté 2 Oscars, celui du meilleur acteur en 71 pour son rôle dans French Connection et en 93 l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans Impitoyable de Clint Eastwood.
Merci Karine Bellicha. Dernière partie d'RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes et on prend d'abord la direction d'Haïti.
RFI Midi. Cap-Haïtien. 100.5 FM.
Une fois encore, les mêmes scènes dans les rues de Port-au-Prince et de ses environs, des habitants fuyant leur maison avec un sac ou une petite valise pour échapper à la violence des gangs. Situation mouvementée de nouveau hier à Delma 19 et à Delma 30, nous dit le site Passion Info Plus, ainsi qu'à Kinskoff. On a vu aussi circuler ces dernières heures une vidéo sur les réseaux sociaux témoignant de la détresse de la population. Des habitants de Solino, victimes de la coalition criminelle Vivre Ensemble, qui ont fait tomber la grille des bureaux du ministère des Travaux publics à Delma 33 pour y trouver refuge et ne pas dormir dehors, comme le criaient certains. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, en direct de Port-au-Prince. Ces attaques, depuis quelques jours, en de multiples points de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, cela s'inscrit dans une dynamique plus large. C'est ce que vous explique le responsable d'une ONG qui connaît bien la zone et à qui vous avez parlé.
Totalement, c'est le père Maisonneuve qui explique. Il travaille dans la zone depuis une quarantaine d'années, particulièrement dans la zone de Delma 30. Il explique que c'est un quartier clé. Si on prend Delma 30, eh bien, on ira vers Pétionville, on ira vers le haut de Delma, les derniers quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, de l'ancienne capitale, qui étaient encore, et, je dirais, en tranquillité. Et les attaques des gangs sont coordonnées, cela empêche à la police de répondre. Il y a des attaques quasiment dans 6 communes de la grande région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça va de Gressier, qui est au sud totalement de Port-au-Prince. Ça passe par la Croix-des-Bouquets, ça passe par Tabar, il y en a à Kinskoff. Il y en a dans la région métropolitaine même, c'est-à-dire Carrefour-Feuille, Delma. Et c'est une attaque totale des gangs de la coalition Vive Ensemble. Ils sont partout. Et la détresse de la population est immense. Et l'indifférence des autorités est totale.
Voilà, l'emprise des gangs, elle s'exerce aussi dans l'enrôlement de nouveaux membres. L'UNICEF révèle que le nombre de recrutements d'enfants a augmenté de 70% au deuxième trimestre de l'année dernière par rapport à la même période un an plus tôt. La situation est catastrophique, mais la réponse insuffisante, c'est ce que vous écrivez dans votre éditorial, France. Les chiffres ne mentent pas.
Tout à fait. Et le Nouvelliste a comparé deux chiffres. Les Nations Unies ont lancé un appel pour trouver 908 millions de dollars pour la réponse humanitaire. Réponse humanitaire qui est causée par l'insécurité. Et quand on compare combien Haïti investit dans la bataille contre l'insécurité, c'est 285 millions de dollars. La disproportion est énorme. Très peu d'argent pour la réponse sécuritaire. On cherche beaucoup d'argent pour la réponse humanitaire. Et les problèmes humanitaires ne sont pas les seuls qui sont causés par l'insécurité. Il y a l'économie, il y a l'éducation, enfin, il y a plein de secteurs qui sont affectés. Mais c'est pour dire que l'État haïtien n'a toujours pas pris la mesure de ce qui se passe et n'a toujours pas décidé de mettre les moyens qu'il faut. D'autant qu'il y a des batailles au plus haut niveau de l'État pour contrôler le budget de la police, les dépenses de la police et pour mettre la main sur ce pactole. Petit pactole, mais pactole quand même, 285 millions de dollars. Le budget de la police et de l'armée sont très convoités par des autorités civiles qui vraiment ne se préoccupe pas vraiment des résultats ni de la réponse sécuritaire.
La situation sécuritaire qui est toujours aussi compliquée. Le Nouvelliste nous apprend aussi, France, que le secrétaire général des Nations Unies renonce à une mission de l'ONU en Haïti. Antonio Guterres a dit hier qu'il se concentrait plutôt sur un appui à la force multinationale qui est déjà présente dans le pays.
Il faut dire que l'ONU, ça fait des années que l'ONU balade Haïti. Et à chaque fois, la réponse, c'est comme pour les autorités haïtiennes, la réponse n'est pas à la mesure des difficultés, des problèmes. L'ONU veut venir ouvrir un nouveau bureau civil, venir payer les fonctionnaires, en fin de compte, venir gérer des budgets pour des réponses qui n'apporteront pas de solution à la crise sécuritaire. Il se trouve que la crise est mal nommée en Haïti, la crise est mal comprise, la crise est mal adaptée. Appréhendé à la fois par les autorités haïtiennes et à la fois aussi par la communauté internationale. Là, Port-au-Prince est en train de tomber, lentement mais sûrement, et sans doute l'ONU comme le gouvernement haïtien un matin vont déloger, vont chercher une autre ville d'Haïti pour dire que dorénavant, ils vont s'installer là. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. Beaucoup d'institutions sont au Cap haïtien. On attend que le bureau de l'ONU et celui du gouvernement pour aller au Cap pour que la messe soit dite pour Port-au-Prince.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Tous ces articles sont à lire sur votre site lenouvelliste.com.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On a parlé tout à l'heure dans le journal des droits de douane que Donald Trump veut imposer à l'Union européenne. Il a toujours les mêmes projets pour ses voisins, le Canada et le Mexique. Pour l'instant, la mesure est suspendue, mais jusqu'à mardi prochain seulement. Alors, de hauts responsables mexicains sont aujourd'hui à Washington pour essayer de trouver un accord. Et la présidente Claudia Sheinbaum explique que si l'administration Trump met bien ses menaces à exécution, alors l'accord de libre-échange à l'ENA sera probablement revu.
La révision du traité est imminente. C'est ce qui a été convenu par le pouvoir législatif des États-Unis et notre pouvoir législatif. Ce traité est une loi qui devait être révisée en 2026. Et ce qui arrivera très probablement, c'est que l'ensemble de cette révision soit avancée. Il y a donc aussi beaucoup de travail en cours avec le Canada.
La présidente mexicaine, la presse du pays revient largement sur cette question. Vous avez lu les journaux, Anne Verdaguer, et ils estiment que rien n'est joué pour le moment.
Oui, il pourrait arriver le 4 mars ou le 2 avril, ces tarifs douaniers. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle pause, selon le journal mexicain El Universal. Ce n'est pas la première fois que le président américain fait des déclarations confuses. En début d'année, rappelle le journal, le président américain avait confondu l'Espagne avec un membre des BRICS. Lorsqu'il lui a été précisé que cette nation ne faisait pas partie du groupe, il a répondu qu'il imposerait des tarifs douaniers à tous les pays membres de l'organisation.
Donald Trump qui a annoncé l'annulation d'une licence d'exploitation de pétrole au Venezuela accordée à l'entreprise américaine Chevron, accusant notamment Caracas de ne pas respecter un accord de rapatriement des migrants. Le pétrolier américain était autorisé à opérer au Venezuela jusqu'à la fin du mois de juillet prochain. Ça, c'est ce que rappelle la presse au Venezuela.
Oui, la décision de Washington avance de plusieurs mois la cessation d'activité de Chevron, rappelle El Nacional, qui se souvient que ces concessions avaient été autorisées en 2022 par l'administration Biden dans l'espoir d'obtenir des garanties sur des élections transparentes au Venezuela. Mais la réélection de Nicolas Maduro en juillet dernier a douché les espoirs américains. Le départ de Chevron est un revers économique pour le Venezuela, poursuit le journal. La compagnie pétrolière américaine avait contribué à la réactivation de la production pétrolière du pays, qui a dépassé en février de cette année le million de barils par jour pour la première fois depuis juin 2019, selon des chiffres de l'OPEP.
Donald Trump tenait hier son premier conseil des ministres, on en a parlé tout à l'heure, et Elon Musk est celui qui a pris le plus la parole en dehors du président américain. L'omniprésence du milliardaire aux côtés de Donald Trump fait de lui une sorte de co-président qui n'en a pas le nom. C'est ce que nous dit la presse américaine ce matin.
Oui, dans le Washington Post, cette vidéo assez déconcertante où Elon Musk se tient loin de la table où se tient ce premier conseil des ministres. Il est dans l'assistance, au fond, quand un journaliste pose la question de savoir si les membres de l'administration Trump sont contents du travail de ce dernier au sein de la Commission pour l'efficacité gouvernementale, silence gêné dans l'assistance, puis l'un des secrétaires d'État commence par applaudir. Le tout se finit en une vague d'applaudissements que l'on sent poli ou au pire forcé. Puis Donald Trump reprend la parole. Il explique que certains de ses collaborateurs ne sont pas forcément d'accord avec Elon Musk, mais que la plupart sont ravis de sa présence à ses côtés. Le New York Times qualifie le super conseiller de Donald Trump d'éléphant dans la pièce. Le journal rappelle comment quelques jours plus tôt, Elon Musk avait passé outre l'avis de toutes les personnes installées hier à la table autour du président en envoyant un email à des millions d'agents fédéraux pour qu'ils justifient leur travail au quotidien sous peine d'être licenciés. Elon Musk n'est pas un membre officiel de l'administration Trump. En fait, il n'a aucun rôle précis, rappelle le New York Times. Pourtant, clairement, il est le patron.
Anne Verdaguer, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. On va prendre d'abord la direction du Brésil.
RFI Midi.
Hoje é sexta-feira. J-1 avant le coup d'envoi du carnaval à Rio, dernier préparatif avant 5 jours de fête et une ombre au tableau. La quantité phénoménale de déchets produits pour l'occasion, près d'une tonne en tout, qui ont beaucoup de mal à être recyclés malgré quelques initiatives pour limiter les dégâts. C'est notre dossier du jour, il est signé de notre correspondante, Sarah Cozzolino.
Les paillettes occupent une place centrale dans le carnaval. Chaque année, des kilos et des kilos de ce microplastique brillant sont utilisés dans les défilés de rue et du sambodrome.
Si on considère que le plastique peut mettre jusqu'à 400 ans pour se décomposer dans la nature, on peut dire que toute paillette produite est encore en circulation. Et ce qui est fou, c'est qu'on les utilise pour passer seulement l'après-midi dans un cortège de carnaval. Mais les paillettes, elles restent, parfois à l'intérieur de nous-mêmes, des animaux. Ça a un impact énorme.
Gabriela Cox a créé sa marque de cosmétiques baptisée Seu Momento en 2018. Deux ans plus tard, elle s'est tournée vers les paillettes biodégradables produites à base d'un minéral abondant au Brésil, le mica.
Les flocons de mica sont des résidus qui ne sont généralement pas utilisés, donc c'est aussi leur donner un nouveau sens. Et la pigmentation se fait manuellement grâce à un colorant alimentaire qui se dissout naturellement. C'est utilisé en cuisine, donc ce n'est pas du tout agressif pour la peau.
À l'approche du carnaval, elle tente de sensibiliser les consommateurs dans les rues de Rio.
Je n'avais jamais vu ce genre de paillettes avant, mais je trouve ça très joli.
Je pense que c'est très important de s'intéresser à ça, surtout pour les générations futures et maintenant que les questions climatiques sont très présentes. Ça m'a plu. Je pense que je vais les utiliser pour le carnaval de cette année.
Il faut compter un prix environ 3 fois plus cher pour les options de paillettes biodégradables et Gabriella admet aussi que le résultat n'est pas le même.
Aujourd'hui, si je compare mes paillettes à des paillettes en plastique, je vois la différence. Mais je fais le choix d'utiliser mes paillettes biodégradables parce qu'elles ont une certaine brillance. Elles donnent un beau résultat de maquillage sans l'impact du plastique.
Autre secteur peu soutenable du carnaval, les costumes et déguisements. Souvent produits avec des matières de mauvaise qualité, les personnes qui profitent des blocos de carnaval, ces groupes de musiciens qui défilent dans les rues, en achètent des nouveaux chaque année. Pour ce qui est du sambodrome et des écoles de samba, c'est encore pire. À l'issue du défilé, des montagnes de costumes sont jetées. Face à ce constat, le projet Sustenta Carnaval donne une seconde vie aux costumes. Dans un énorme entrepôt en face de la cité de la Samba, des anciens costumes sont triés par pièces et couleurs. Ce mercredi, les organisateurs du bloco Tecno Macumba viennent chercher leur bonheur dans cette véritable caverne d'Ali Baba. Luis Fernando Bruno est l'un des artistes chargés de la commission d'ouverture.
Cet espace est à la fois innovant et urgent. Ça nous ouvre des fenêtres de créativité quand on voit ces millions de possibilités que l'on peut penser dans chaque costume, chaque pièce, chaque couleur, chaque plume. C'est un matériel totalement vivant, bien qu'il soit jetable, il y a une puissance créatrice.
Le projet a vu le jour en 2022. Depuis, plus de 50 tonnes de costumes ont été sauvés des déchetteries grâce à un accord avec les pouvoirs publics. Cette année, Sustenta Carnaval offre des prix défiant toute concurrence avec une vente au poids à moins de 10 euros le kilo. Mariana Pignot est à l'origine du projet.
Les personnes qui ont une certaine responsabilité à l'année, qui achètent leur paille en métal, trient leurs déchets, qui sont conscientes de leur empreinte environnementale, oublient tout ça pendant le carnaval. Et finalement, elles laissent la place aux paillettes en plastique, aux matières synthétiques. Des produits qui sont importés, fabriqués avec une main-d'œuvre réduite en esclavage, et ces déguisements mettront entre 300 et 400 ans pour se décomposer.
Gabriella et ses paillettes, et Mariana et ses costumes essaient d'éveiller petit à petit les consciences pour un carnaval plus durable, un travail de fourmi, comme elles le définissent. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Il est 10h23 à Rio.
RFI Midi.
This is tricky. They make it look so easy, don't they? Mississippi would be proud of you. You've struck a blow for the white man. Is that what you said, Clinton?
La voix de Gene Hackman dans Mississippi Burning en 1988. L'acteur, âgé de 95 ans, a été retrouvé mort hier chez lui, aux côtés de son épouse, dans des circonstances encore inconnues. Anne Verdaguer, la presse américaine y revient très largement, et notamment le Los Angeles Times.
Oui, il n'y a pas de signe d'un acte criminel, selon la police. Le couple a été retrouvé sans vie, avec à leur côté leur chien. Le journal rappelle la grande carrière de cet incroyable acteur qui avait gagné 2 Oscars pour le rôle d'un flic des stupes, habité par sa mission d'enfant. French Connection, et pour un shérif sadique dans le film de Clint Eastwood Unforgiven, impitoyable en français. Le public l'a découvert dans Bonnie and Clyde en 1967 aux côtés de Warren Beatty et Faye Dunaway, cet ex-marine qui était un bagarreur et qui avait un visage qu'il a un jour décrit comme celui d'un mineur de fond, a été l'une des stars les plus prolifiques d'Hollywood. Il a tourné dans près de 80 films au long d'une carrière qui s'est étalée sur 4 décennies.
All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. How many times have I been down?
La bande-annonce de French Connection dont vous nous parliez, Anne, et qui lui avait valu un Oscar à Gene Hackman, décédé donc il avait 95 ans.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises maintenant. Benoît Ferrand, en Guyane, la saison du litchi chevelu s'annonce très médiocre cette année.
Et oui, tout le monde connaît le litchi, invité d'honneur des fêtes de fin d'année à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, mais le litchi dit chevelu, de son véritable nom le remboutant, arrive quant à lui en ce moment sur les marchés de la Guyane. Problème, les conditions climatiques n'ont pas été très favorables cette année, comme l'explique Julie Siong, agricultrice à Mana, au micro d'Inès Apetovi.
C'est une année très compliquée, j'allais dire ça, parce qu'avec la pluie, la sécheresse de cet été qui a très duré, on a commencé, mais c'est limité pour cette année. Il n'y aura pas beaucoup de quantité, c'est bien vite arrivé, mais ça va bien vite partir aussi. La pluie, on s'attendait déjà, mais la sécheresse, non. Le fait qu'il y a eu trop de soleil cet été, du coup, ça a duré trop longtemps pour que normalement, il commence déjà à fleurir fin d'année, ce qui n'est pas été le cas. Ça commence un peu début d'année, donc il y en a qui sont un peu en avance, mais bon, c'est très, très, très peu. Normalement, ça va jusqu'en avril. Mais je pense pas que cette année ça va durer jusqu'à avril. On essaye de faire mieux, mais bon. Chaque année la saison change, donc on adapte. Espérons que l'année prochaine on aura un petit peu plus comparé à cette année.
Bientôt les jours gras en Martinique, l'occasion de voir défiler dans les rues des personnages emblématiques du carnaval, des personnages que l'association Recherche et Tradition ambitionne de réintroduire dans les vidées. Reportage en Martinique donc, signé Manuel Larade.
Les masques et personnages emblématiques de notre carnaval seront encore là cette année. Marguerite Psyché Salpêtrier, la présidente de l'association Recherche et Tradition.
Nous remettons le paquet, nous retravaillons sur tous les masques traditionnels. Et chaque année, nous nous faisons plaisir en changeant la thématique, en mettant l'accent sur un masque ou deux. Et cette année, tous les masques seront sortis. Marianne Lapoufig, Maslamo, Médecin à l'hôpital, Zoula Grimace, Caroline Zeloli, Negro Siro, Papa Diab, La Gablesse, tous les personnages qui nous donnent des informations sur notre histoire, sur notre identité, sur nos rituels sacrés passés.
L'association travaille depuis de longues années sur ces personnages que l'on a tendance à oublier. Celui de la Marianne Lapoufig, fort heureusement, continue d'être présent dans les vidées.
Marianne Lapoufig est revenue très fort depuis 1984. Quand il y a eu cette énorme vidée de presque 80-90 Marianne dans les rues, qui a fait que c'est revenu en mémoire. Tous ces masques sont tombés dans l'oubli après l'éruption de 1902, après la Première Guerre mondiale, etc. Et au fur et à mesure, ils sont revenus.
Bon carnaval à tous!
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va se quitter avec un peu de musique, celle de la chanteuse et flûtiste guadeloupéenne Celia Wa et le titre Démounage. Et c'est ainsi avec Celia Wa que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par Yann Eligouin. On se retrouve demain 11h30 temps universel. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chantal Laureau pour De Vive Voix avec une invitée chanteuse et autrice française, la grande Sophie. Très bonne journée à tous. Tout ça y est au fait, pas oublier. Tout ça y est au point.